Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro du Monde aujourd'hui. Jacques Aristide pour vous accompagner. Nous sommes le mardi 1er octobre 2019 au sommaire ce soir. Un premier groupe de réfugiés burundais en Tanzanie rapatriés ce jeudi après un accord entre Bujumbura et Dar es Salaam. Dans la partie magazine, gros plan sur la situation humanitaire jugée inquiétante à Birao en Centrafrique.
Nous avons trouvé une population encore affectée par les événements de ces derniers temps et vous savez, ils ont peur.
Également dans cette tranche, coup de projecteur sur l'étau djihadiste qui se resserre autour de la capitale burkinabé.
Aujourd'hui, il serait un peu illusoire de penser qu'il s'agit du terrorisme pur et dur. Et il faut également tenir compte aussi de la situation politique.
Ailleurs dans l'actualité, le patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, accuse les démocrates d'intimidation dans l'affaire ukrainienne. Ne manquez pas non plus vos rubriques habituelles, la Minute Éco et les sports, dans 10 minutes environ. Bujumbura indique ce mardi qu'un premier groupe de ses réfugiés en Tanzanie va rentrer au Burundi dans le cadre du rapatriement prévu par les deux pays. Des ONG dénoncent pour leur part un retour contraint de ces réfugiés burundais. Davantage avec Yakuba Ouedraogo.
D'après Nestor Bimeyimana, directeur général du rapatriement, environ 1000 réfugiés font partie du premier groupe de Burundais prêts à retourner chez eux. Il a affirmé que le processus est volontaire. En août, Bujumbura et Dar es Salaam ont convenu du rapatriement de 200 000 Burundais réfugiés en Tanzanie, suscitant des craintes de retour forcé de ceux qui avaient fui la violence. À ce stade, les conditions ne sont pas réunies pour des retours de masse, a déclaré Babar Baloche, porte-parole du HCR, ajoutant que les réfugiés devaient décider d'eux-mêmes. Il a soutenu que ceux qui se sentaient en sécurité sont déjà rentrés et que des Burundais continuent de fuir leur pays pour des raisons de sécurité. Des centaines de Burundais ont été tués dans des affrontements avec les forces de sécurité depuis 2015, lorsque le président Pierre Nkurunziza s'est présenté pour un troisième mandat. Au cours de la même période, plus de 400 000 personnes ont fui le pays vers la Tanzanie, le Rwanda et la RDC.
Un mot encore concernant la Tanzanie. L'avocat du journaliste d'investigation Eric Kabandera appelle le président John Magufuli à gracier son client dont la santé est précaire et qui se dit innocent. Eric Kabandera a été inculpé en août dernier pour crimes économiques. Au Cameroun, des personnalités politiques ont profité du grand dialogue national qui a lieu en ce moment pour aborder des questions sur la forme de l'État, sujet exclu par le pouvoir d'après les opposants. Le dialogue est destiné à résoudre la crise anglophone dans l'ouest du pays. John Frundi, leader du parti SDF, a exigé un retour au fédéralisme à deux États, selon une déclaration lue lors du dialogue convoqué par le président Paul Biya. En Côte d'Ivoire, Jacques Mangoua, président du conseil régional du Mbeke dans le centre du pays, sera jugé ce jeudi pour détention illégale de munitions. D'après le procureur de Boaké, il est en garde à vue depuis samedi dernier après la découverte de munitions à son domicile. Aïcha Diarra pour les détails.
991 munitions de guerre de 7,62 mm, 49 munitions de fusil de type 92 et 40 nouvelles machettes dans une niche de sa résidence dans son village natal Nguessankro, situé dans la sous-préfecture de Bodoko. Il a été entendu au cours de l'enquête ouverte et placé en garde à vue de 48 heures. Une garde à vue qui prenait fin ce lundi 30 septembre. Faute d'avoir pu apporter des preuves de son innocence, selon le procureur de la République, M. Kone Brahma, il sera placé sous mandat de dépôt et transféré à la maison d'arrêt et de correction de Boaké en attendant son procès pour détention illégale de munitions de guerre sans autorisation administrative. Ce procès se tiendra sauf cas de force majeure le jeudi prochain, toujours selon le procureur qui précise que le cadre du PDCI encourt une peine de 5 à 10 ans. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
Au Mali, un bataillon de l'armée du pays, sous commandement de la force conjointe du G5 Sahel, tente ce mardi de reprendre des positions tombées sous le contrôle de djihadistes qui ont mené hier une double attaque contre des camps militaires dans le centre du pays. Située à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, la position de Boulkessi du bataillon malien du G5 Sahel a été attaquée hier par des éléments présumés du groupe Ansarul Islam, d'après le secrétariat de la force du G5 Sahel. Au Nigeria, 5 membres d'une milice civile anti-djihadiste ont été tués dans une attaque menée par le groupe de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ou ISWAP, au cours du week-end contre la localité de Goubio, dans le nord-est du pays. Les dirigeants de la milice et un officier de l'armée ont rejeté les allégations des djihadistes, selon lesquelles ces combattants ont tué ou blessé 18 soldats. Au Malawi, la police a dispersé avec des gaz lacrymogènes à Lilongwe aujourd'hui des partisans de l'opposition qui exigeaient la démission de la présidente de la commission électorale du pays, accusée d'avoir supervisé des fraudes lors de la présidentielle de mai dernier. Au Zimbabwe, le chef de l'État a appelé ses compatriotes aujourd'hui à la patience pour relancer l'économie exsangue du pays. Lors de son discours annuel à la nation devant le Parlement à Harare, Emmerson Mnangagwa s'est dit conscient des souffrances imposées par la crise à une large part de la population. En Tunisie, la Cour d'appel de Tunis a rejeté aujourd'hui une nouvelle demande de libération du candidat au second tour de la présidentielle Nabil Karoui, moins de 2 semaines avant le scrutin. En Algérie, environ 3000 étudiants ont manifesté à Alger aujourd'hui, réitérant leur rejet de l'élection du 12 décembre, soutenu par l'homme fort du pays, le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a accusé les élus démocrates du Congrès de tentative d'intimider les diplomates qu'ils veulent interroger dans le cadre de l'enquête parlementaire qui vise la destitution du président américain. Le point avec Eric Manirakiza.
Le secrétaire d'État américain ne refuse pas de se soumettre à la requête des démocrates. Il est lui-même l'objet d'une injonction formelle de 3 commissions du Congrès pour leur livrer des documents nécessaires à leur enquête. Les élus démocrates à la tête de ces commissions ont fixé les dates pour auditionner 5 hauts diplomates, dont Kurt Volker, l'envoyé spécial pour l'Ukraine, qui a démissionné vendredi. Ces injonctions ne peuvent qu'être comprises comme une tentative d'intimider, de harceler, de maltraiter les éminents professionnels du département d'État, estime M. Pompeo. Dans sa lettre, il conclut qu'il n'est pas faisable que le Congrès commence dès mercredi à entendre les 5 diplomates sans proposer de date ultérieure. Les démocrates reprochent au président Donald Trump d'avoir mis la pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un entretien téléphonique le 25 juillet, d'enquêter sur l'ancien vice-président Joe Biden, candidat à l'investiture démocrate en vue de la présidentielle de 2020.
Également dans l'actualité, de très grandes célébrations aujourd'hui pour marquer le 70e anniversaire du régime communiste chinois. Des célébrations toutefois éclipsées par des violences à Hong Kong, où un manifestant a été pour la première fois blessé par un tir à balles réelles. Le point avec Abdourahman Dia.
15 000 soldats accompagnés de chars, de missiles et d'avions de combat ont défilé devant les plus hauts dignitaires chinois rassemblés sur la place Tiananmen au cœur de Pékin. Ce défilé militaire a été suivi d'une grande parade avec 100 000 figurants autour de 70 chars de carnaval. À 2000 km plus au sud, à Hong Kong, les manifestants pro-démocratie ont défié à nouveau la police dans ce qu'ils ont qualifié de journée du chagrin. Ils ont jeté des œufs sur un portrait géant du président chinois Xi Jinping. Ils ont déchiré et piétiné de grandes affiches célébrant l'anniversaire du régime communiste. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour des manifestations interdites qui ont donné lieu à de nouveaux affrontements. Un policier a ouvert le feu après avoir été attaqué. Un manifestant a été touché à la poitrine. Les autorités médicales ont fait état de 31 personnes hospitalisées, dont 2 dans un état critique. L'Union européenne a appelé à la désescalade. Londres a dénoncé l'usage disproportionné de balles réelles et aussi appelé les 2 parties à la retenue.
En Irak, 2 manifestants ont été tués, 200 personnes blessées aujourd'hui lors de manifestations dispersées par les forces de l'ordre à Bagdad et dans le sud du pays. La première contestation sociale d'envergure depuis la mise en place du gouvernement il y a près d'un an à Bagdad, où plus d'un millier de manifestants s'étaient réunis pour réclamer du travail et des services publics fonctionnels. Les forces de l'ordre ont tiré à de très nombreuses reprises à balles réelles, d'après des témoins. Le président turc Recep Tayyip Erdogan affirme que la Turquie arrive à bout de sa patience vis-à-vis des États-Unis au sujet de la création d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. Lors d'un discours télévisé aujourd'hui, le chef de l'État turc évoque l'imminence d'une opération. Un accord a été conclu en août dernier entre Washington et Ankara pour créer une zone tampon entre la frontière turque et les zones syriennes contrôlées par la milice kurde, appuyée par les Américains, des unités de protection du peuple, YPG, YPG. La Turquie considère que cette milice comme une organisation terroriste. Voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique. Il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le prix d'achat du cacao aux planteurs de Côte d'Ivoire a été fixé à 825 francs CFA le kilogramme pour la campagne 2019-2020 contre 750 francs CFA la saison dernière, soit une hausse de 10%. Les planteurs ivoiriens s'attendaient à un prix garanti de 1000 francs CFA le kilo. Selon le Conseil Café Cacao, la campagne précédente a été marquée par des ventes spéculatives et la volatilité de la livre sterling en raison du Brexit. Le budget 2020 de la République démocratique du Congo s'élève à 7 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,5% par rapport à 2019. La croissance devrait légèrement ralentir à 5,4% l'an prochain. La Banque centrale congolaise a annoncé en avril que son PIB augmenterait de 5,9% cette année, mais le FMI s'attend à une croissance de 4,3% en raison de la baisse des prix du cuivre et du cobalt. Pour terminer, la justice américaine classe 2 affaires concernant le groupe pétrolier Eni dans des dossiers de corruption présumés au Nigeria et en Algérie. Le premier dossier concerne l'acquisition d'une licence pour l'exploration d'un bloc pétrolier nigérian offshore en 2011. Le deuxième dossier concerne le versement présumé de 197 millions d'euros de pots de vin à des responsables algériens par une filiale d'Eni, Saipen, pour obtenir des contrats. Eni a été relaxé en septembre 2018, mais Saipen a été condamné.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouidraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Les chapeaux pour le tirage au sort des poules en Ligue des Champions sont connus.
Oui, le pot 1 renferme le champion en titre l'Espérance de Tunis, le tout-puissant Mazembe, le Wydad Casablanca et Al Ahly. Dans le pot 2, on retrouve l'étoile du Sahel, Mamelodi Sundowns, le Zamalek en attente de confirmation et le Raja Casablanca, l'USM Alger, Zesco United, l'AS Vita Club et Al Hilal composent le pot 3, Primero de Agosto, le FC Platinum, Pedro de Luanda et la JS Kabylie partagent le pot 4. La cérémonie du tirage au sort aura lieu le 9 octobre en Égypte.
Paul Put, nommé directeur sportif du Wydad Casablanca.
Limogé par la Guinée après la CAN, le technicien belge a été engagé comme directeur sportif par le Wydad de Casablanca, quelques mois après son départ mouvementé de la Guinée sur fond d'accusation de corruption. Et banni à vie dans ce pays, Paul Put a été choisi pour son expérience pour relever le niveau de la formation d'après le club Wydadi. Le Belge avait en effet mené le Burkina Faso à la finale de la CAN en 2013.
Aliou Cissé publie sa liste pour le match amical contre le Brésil.
Le technicien sénégalais a procédé à quelques changements par rapport à ses 23 de la CAN 2019. Certaines absences comme celle de Mbaye Diaye et Karam Bodje entre autres sont à noter. En revanche, Famara Diédiou signe son retour en sélection, tout comme Pape Djibril Diaw, Eracine Koli, Sidi Sarr de Nîmes, Mamadou Loum et Habib Diallo. Le Sénégal effectuera sa première sortie depuis la finale perdue de la CAN le 10 octobre face au Brésil en match amical.
Et puis Ligue des Champions ce soir en Europe.
Tottenham accroché chez l'Olympiakos 2-2 après avoir mené 2-0 accueille le Bayern Munich du Polonais Robert Lewandowski. 10 buts en 6 matchs de Bundesliga dans le groupe A. Le Paris Saint-Germain privé de Neymar et d'Edinson Cavani mais avec Kylian Mbappé va tenter de confirmer sa large victoire inaugurale contre le Real Madrid 3-0. lors de son déplacement à Istanbul face à Galatasaray. Parmi les autres rencontres de la soirée, Manchester City reçoit le Dynamo Zagreb, surprenant leader du groupe C après avoir étrié l'Atalanta Bergame 4-0 en ouverture. Dans le groupe D, la Juventus devra rectifier le tir à Turin face à Leverkusen après avoir concédé le nul 2-2 chez l'Atlético Madrid alors qu'elle menait 2-0.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Il est l'heure maintenant de vous proposer nos sujets qui vont au-delà de l'actualité. Jacques Aristide, toujours en votre compagnie. Je vous remercie d'être toujours branché sur VOA Afrique. Au Burkina Faso, des populations fuient les villages situés à quelques 150 km de la capitale Ouagadougou. Les groupes terroristes qui sévissent dans l'extrême nord du pays se sont beaucoup rapprochés de la capitale. Le département d'État américain a classé la quasi-intégralité du pays en rouge et conseille aux voyageurs de reconsidérer leurs déplacements. Récemment, des bases militaires ont été détruites et des armes saisies par des terroristes. Pour comprendre cette détérioration de la situation, Bagassi Koura s'est entretenu avec Jean-Pierre Bayala. Il est colonel de l'armée burkinabé à la retraite.
Depuis bientôt plus de 3 ans, le Burkina est en proie à ces attaques-là. Et c'est rappelé aussi qu'il y a eu des attaques en plein cœur de notre capitale, de Ouagadougou. Cela veut dire aussi que les terroristes, naturellement, ils n'ont pas de lieu de prédilection en tant que tel. Ils font des coups d'essai pour voir où ils peuvent frapper. Ceci peut expliquer cela, mais seulement il faut se rappeler que les choses ont commencé dans le nord et le Sahel. Cela est dû au fait que ces terroristes, pour la plupart, sont descendus, nous ont envahis à partir du Mali. Il faut tenir aussi compte de la complexité de la situation. Aujourd'hui, il serait un peu illusoire de penser qu'il s'agit du terrorisme pur et dur. Il faut également tenir compte aussi de la situation politique dans le Burkina.
On a l'impression aussi que l'armée n'a jamais su s'adapter à la nouvelle donne et qu'elle est dépassée.
L'armée ne pouvait pas s'adapter dans la mesure où il y a eu un effet de surprise totale. On aurait pu, à partir de 2012, où une étude a été menée sur les conséquences possibles de la guerre du Mali sur le Burkina, la sonnette d'alarme avait été fortement question qu'après le Mali, le Burkina serait dans l'œil du cyclone. Malheureusement, les dispositions n'ont pas été prises à l'époque. Et vous comprenez que l'ancien régime, il faut aussi se rappeler que ces terroristes qui frappaient le Mali pouvaient souvent refuser auprès du Burkina.
Si l'armée ne s'est pas adaptée, comment est-ce qu'on pourra venir à bout de ce phénomène-là, le terrorisme?
Le terrorisme, d'abord, je ne sais pas quel pays peut venir au bout du terrorisme. Le terrorisme est aussi vieux que la guerre. C'est une affaire aujourd'hui mondiale. Nous sommes dans un village planétaire aujourd'hui. S'il n'y a pas un élan de solidarité, s'il n'y a pas une cohésion au sein de la communauté internationale, il sera difficile à un État de créer une île de paix.
On écoutait Jean-Pierre Bayala, il est colonel de l'armée burkinabé à la retraite. Il était en ligne de Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République centrafricaine, la situation humanitaire et sécuritaire est jugée catastrophique à Birao, dans le nord-est du pays. Depuis les affrontements en cours du mois écoulé entre les groupes armés dans la ville, plus de 13 000 personnes vivent dans de mauvaises conditions dans les camps de déplacés. De Bangui pour VOA Afrique, le reportage de Freeman Sipila.
Les affrontements du 1er et du 8 septembre dernier entre les groupes armés rivaux FPRC et MLCJ ont plongé la ville de Birao dans la précarité. En dehors du nombre de morts estimé à une soixantaine, plusieurs maisons et commerces ont été détruits et des quartiers vidés de leurs habitants. Sur les trois sites que compte la ville, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. De retour d'une visite dans la localité, la ministre de l'Action humanitaire Virginie Baïkoa se dit inquiète et propose des actions.
Nous avons trouvé une population encore affectée par les événements de ces derniers temps et vous savez, ils ont peur. Donc il faut réunir les conditions sécuritaires pour parler de retour. On a identifié des besoins et il faut apporter les réponses. Par exemple, ils sont affectés, il faut les aider à dépasser la peur. Il faut aussi améliorer leurs conditions de vie. Ils sont dans des huttes qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc il faudrait améliorer les abris. Il y a beaucoup de choses à faire.
L'insalubrité, les mauvaises conditions de vie sur les sites oblige certains déplacés à braver l'insécurité et à regagner leurs habitations. Certains déplorent le manque de médicaments, d'autres se plaignent d'une prise en charge sanitaire insignifiante. Pour Dr Pierre Somsi, ministre de la Santé publique, des dispositions sont déjà prises.
Une organisation a été mise en place, donc centrée sur l'hôpital bien sûr, mais comportant des unités qui sont installées dans les sites, qui sont des unités pour la prise en charge des urgences, dans les cas de PALU par exemple, et tous les cas graves sont repérés à partir de ces unités à l'hôpital. Je crois que le système actuel est adéquat. Donc nous verrons avec l'évolution de la situation dans quelle mesure renforcer ces différentes stations au niveau du centre. Il y a aussi d'ailleurs au niveau de l'un des centres une tente pour des blessés, puisqu'il y a eu des blessés qui ont dû être remis à leur communauté. Et donc il y a une tente pour suivre ces blessés-là sur place.
L'avenir scolaire de nombreux enfants confinés sur les sites des déplacés est aussi menacé. Conscient de cette situation, l'UNICEF propose des alternatives. Christine Mouigana, sa représentante en République centrafricaine.
Nous avons eu déjà la semaine dernière une mission d'évaluation pour voir comment une rentrée scolaire pourrait se faire à Birao. D'habitude, dans ce genre de circonstances, ce qu'on essaye de faire pour parer au plus pressé, c'est d'établir ce qu'on appelle des espaces temporaires d'apprentissage pour les enfants, où on pourrait s'assurer que si les enseignants sont là, si on a un minimum de matériel pédagogique et d'espace pour les enfants, qu'ils puissent commencer un semblant d'année scolaire en attendant qu'ils puissent retourner à l'école. Mais c'est une préoccupation qui nous a été clairement exprimée par les autorités là-bas, par les communautés, et nous allons y travailler avec les partenaires qui sont rassemblés ici.
Malgré l'accalmie observée depuis plusieurs jours à Birao, les habitants craignent encore un regain de violence. Cette inquiétude fait que plus de 13 000 personnes sont toujours massées sur les sites des déplacés, occasionnant ainsi la paralysie des activités dans la ville. Freeman Sipila Bongui pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, le grand dialogue national initié par le président Paul Biya a été lancé lundi à Yaoundé. L'objectif est de tenter de mettre un terme au conflit qui secoue la partie anglophone du Cameroun depuis 2 ans. Toutefois, ce dialogue se tient sans les principaux leaders séparatistes emprisonnés. Le dialogue national pourra-t-il aboutir à une décrispation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Quel rôle pour la société civile, la classe politique et l'Église dans le règlement du conflit? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, une émission que vous propose La Voix de l'Amérique. Et maintenant, retour sur l'explosion accidentelle, il y a une semaine au Mali, d'un camion-citerne bourré de carburant. Le drame a semé la désolation en plein cœur de Bamako, la capitale. Le dernier bilan fait état de moins 15 morts et de 58 blessés. La tragédie a contraint les autorités à faire part de nouvelles mesures pour réglementer le stationnement et la circulation des gros porteurs. De Bamako, le point avec Kassim Traoré.
Dès l'annonce de l'explosion accidentelle d'un camion-citerne à Bamako, certains blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré pour les soins. Professeur Mouneru Babi, directeur général de l'hôpital Gabriel Touré.
Fort malheureusement, c'est avec le cœur serré, avec beaucoup de peine, que je vous dis que le bilan a été revu à la hausse, parce que pour ce qui concerne l'ensemble des victimes, nous sommes autour de 58 victimes aujourd'hui, dont malheureusement 15 décès. décès, on prie le Tout-Puissant Allah pour que on ne revive plus des scènes aussi macabres dans notre pays.
Les usagers de la route dénoncent aujourd'hui le manque de fermeté de l'État malien.
La disposition existait pour les gros camions n'étaient autorisés à circuler à Bamako qu'à partir des minuit au matin.
Pendant la journée, les gros porteurs, là, ça cause d'énormes problèmes. L'événement qui s'est produit tout juste, ça c'est un exemple palpant. Donc si vraiment il y a lieu à ce que ces choses-là soient arrêtées, je pense que c'est le bienvenu.
Et notre faiblesse, c'est quoi? On décrète, c'est pas de suivi. Ou bien quand on prend une loi tout de suite, la promulgation pose problème. Il faudrait qu'elle soit forte dans sa décision. Le gros porteur qui sera pris dans la ville la journée doit être sanctionné pour servir de leçon aux autres.
Et pourtant, il existe déjà un arrêté portant réglementation de la circulation, du stationnement des gros porteurs dans les districts de Bamako. Mais cette décision n'a pas pris en compte les cas spécifiques des citernes. Djibril Sidibé, directeur de la régulation et de la circulation urbaine.
Il est possible qu'on puisse intégrer ces catégories d'usagers dans l'arrêté qui réglemente les gros porteurs, ou bien en tout cas qu'on puisse trouver un moyen de réglementer la circulation des citernes dans la ville de Bamako, que ce soit à travers cet arrêté ou un autre acte, compte tenu de la sensibilité et de la délicatesse des produits qu'ils transportent.
Les transporteurs préconisent la création d'un espace de stationnement pour les citernes et autres véhicules qui transportent les hydrocarbures. Youssouf Traoré, président du Conseil malien des transporteurs routiers.
Vous voyez comment les citernes sont garées, il n'y a même pas de parking de stationnement à l'intérieur de Bamako. C'est vraiment regrettable. C'est ce qu'on a dit, il faut trouver un espace, aménager cet espace-là uniquement pour recevoir les citernes. Et le transvasement des citernes doit se faire dans un lieu sûr et précis avec la sécurité requise. Je pense que l'autorité doit avoir un regard sur cette question.
En entendant ces nouvelles mesures, les populations interpellent l'État à s'assumer. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Nous nous rendons maintenant en Côte d'Ivoire. L'accès aux soins de santé demeure un défi majeur. Le pays compte un seul centre d'ophtalmologie pédiatrique. L'unité a été ouverte à Abidjan en février dernier. Et dans le reste du pays, comme par exemple dans la deuxième ville, Boaké, les habitants affirment que c'est très difficile d'avoir des soins oculaires pour les enfants. De Boaké, le reportage de Siriki Barou.
La prise en charge des enfants souffrant de maladies de vue reste difficile dans le reste du pays. C'est le cas de Boaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Personnel médical en nombre insuffisant, manque de matériel, autant de difficultés dans la prise en charge de ces enfants. Service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Camille. La salle d'attente grouille de patients. Dans son bureau, Dr Diakité Seydou est en pleine consultation. Parmi ses patients, on y compte des enfants comme Allegra Marie-Thérèse. Âgée de 13 ans, cette fillette a les yeux tout rouges.
Bon, ça me fait mal et puis la vue au soleil et puis à l'ombre n'est pas trop bonne.
Les enfants que reçoit Dr Diakité Seydou présentent divers types de maladies oculaires.
Les consultations pour les enfants en ophtalmo, c'est en général les conjonctivites, les maladies infectieuses, inflammatoires, et puis les amyotrophies, les ports de lunettes. Il y a les traumatismes chez les enfants, les cataractes congénitales.
Il est impossible d'assurer une prise en charge médicale totale dans certains cas, selon Dr Diakité, en raison de la pauvreté du plateau technique à leur disposition.
Vraiment, il y a ce problème de plateau technique pour les diagnostics et puis les examens complémentaires. On est limité. Dans les tumeurs, on est obligé de débarquer sur la Abidjan.
Pour la Côte d'Ivoire, qui dispose d'un seul centre d'ophtalmologie pédiatrique installé au centre universitaire hospitalier de Trècheville à Abidjan, le projet Child's Eye Care vient pour apporter un début de solution pour une meilleure prise en charge des enfants qui présentent une déficience visuelle. C'est un projet piloté par la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Comelin Christine est la coordonnatrice de ce projet.
Aujourd'hui, avec la CBM, nous avons la construction à Boaké, un plateau technique d'opération. Nous comptons prendre en charge 9 000 enfants que nous allons opérer.
Selon l'OMS, ce sont près de 200 millions de personnes à l'échelle mondiale qui présentent une déficience de la vue avec une forte proportion d'enfants. Siri Kibaro, Boaké, VOA, Afrique.
Eh bien voilà, c'est ici que nous refermons le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci d'être resté avec nous pendant 30 minutes. La mise en onde a été assurée par Gisèle Morissin. À la console, Chao Gong Chong. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.